Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Alors, il y a un an, pile poil, le confinement était déclaré. L'occasion pour de nombreux Français de découvrir ou redécouvrir les vertus des produits locaux. Alors, depuis, c'est vrai que les locavores ont fait des émules. Acheter de la nourriture produite dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres, alors est-ce vraiment jouable au quotidien, toute l'année? Y a-t-il des limites, des exceptions? On en parle ce matin avec Olivier et Yves et puis surtout avec notre invitée, la chef Nadia Samut de l'Auberge de la Fenière à Cadenay. Bonjour Nadia Samut.
Bonjour.
Bonjour Nadia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la chef de cette belle auberge au pied du Luberon et vous venez d'écrire un très beau livre qui s'appelle « Construire un monde au goût meilleur chez Actes Sud ». Alors c'est quoi, tiens, un monde au goût meilleur? C'est un monde au goût local?
Exactement, non. Pour moi, c'est un monde joyeux déjà et épicurien avant tout. Et surtout, c'est un monde dans lequel on vit en conscience, où on essaye de comprendre tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, et puis d'y mettre beaucoup de sens.
Ça revient beaucoup ce mot, la conscience, avec Paul Masson qui a écrit le livre avec vous, qui est une journaliste engagée dans l'alimentation durable. Vous parlez beaucoup de cette conscience, d'avoir conscience de quoi? De son environnement, des gens qui travaillent autour de chez soi, de cet écosystème local?
Oui, au-delà de ça, c'est toute une chaîne, je pense, complètement vertueuse. Et mon idée de la cuisine, c'était celle de nourrir l'autre en conscience, puisque j'étais obligée de le faire pour moi, de comprendre tous les éléments, les ingrédients que l'on met dans son corps. Qu'il soit bon ou moins bon, mais en tout cas de comprendre ce que l'on fait. Et puis derrière, d'avoir toujours cet axe de gourmandise fondamental.
Oui, c'est vrai qu'au fil du temps, vous êtes découverte de nombreuses allergies au lactose, au gluten. Donc vous avez composé une cuisine en fonction de ça. Vous êtes d'ailleurs le seul restaurant étoilé sans gluten. Donc c'est vrai que c'est une belle prouesse. Mais en fait, j'ai presque envie de dire que c'est anecdotique ça. Yves, vous connaissez bien la cuisine de Nadia Samut. On ne vient pas parce que c'est sans gluten, on vient parce qu'on mange bien.
Parce que moi, j'y suis allé manger régulièrement. C'est un endroit que j'appréciais déjà récemment en Rennes et Nadia l'a repris de façon différentes. C'est vrai qu'il y a le sans gluten, mais le sans gluten pour moi n'a pas lieu, parce que c'est vraiment un restaurant gastronomique où il y a de la gourmandise, il y a du plaisir et il y a de l'étonnement. Donc ça reste avant tout un grand restaurant.
Alors on est là pour parler du locavorisme et des locavores. Racontez-nous votre carte, Nadia Samut. Vous faites un brunch à emporter par exemple en ce moment le week-end. À quoi ressemble le menu? Qu'est-ce qu'on mange et d'où viennent les produits que vous cuisinez?
Alors, ils viennent effectivement du pourtour très proche de chez moi. Et mon travail est une ode au vivant et justement au travail agricole que j'ai aux alentours. Et je m'inspire vraiment de mon territoire. C'est-à-dire qu'au lieu de dire il ne faut faire comme ça, je regarde ce qui m'inspire justement dans ce territoire et à la manière à laquelle je peux accompagner les gens qui font cette culture et cette agriculture. Et dans ce cadre, par exemple, je travaille énormément le pois chiche parce que je travaille pour ses vertus déjà agricoles et environnementales qui m'ont beaucoup touchée. Et je me suis dit, en fait, si on devait réfléchir comment accompagner ces terres, le pois chiche est un merveilleux produit, ingrédient, je dirais, et même semence de rotation. Et derrière, en niveau technique et culinaire, il y a plein de choses qu'on n'a jamais observées. Par exemple, je fais du tohu de pois chiche, qui est le tofu de pois chiche en Birmanie. Et j'ai travaillé cette base-là avec laquelle j'ai fait des crèmes pâtissières, des glaces, des choses extraordinaires avec un goût de noisette torréfiée, par exemple.
C'est fou comme le pois chiche démocratise. On en parlait encore la semaine dernière avec notre dossier. Alors, locavore, c'est un mot nouveau, Olivier Pouls, et c'est un mot qu'on doit aux Américains si on s'amuse un petit peu à tirer l'origine.
L'étymologie du mot, effectivement, elle remonte aux années 2005. En 2005, précisément, Jessica Prentice, qui était une Californienne écrivaine, cuisinière, qui a donc inventé à San Francisco ce mot locavore, on le comprend, local et vore consommé. Alors, à l'origine, l'idée voulait que l'on ne consomme des produits que dans un rayon de 100 miles, ce qui fait à peu près 160 km autour de chez soi. Et le Petit Larousse, depuis 2010 d'ailleurs, reprend cette expression locavore.
C'est le cas chez vous, à l'Auberge de la Fenière, à Cadenay, les produits viennent uniquement d'un rayon de 160 km, Nadia?
Alors, à 90%, oui.
Ah, quand même, ah ouais.
Et parce que c'est cette inspiration-là que j'avais envie de mettre au cœur de ce projet. Mais après, le café, par exemple, ne vient pas de cette distance. Mais par contre, je réfléchis également à la manière à laquelle il est fait. En tout cas, j'essaye d'avoir une expérience de ce type.
Oui, un café éthique, avec bien sourcé, comme on dit aujourd'hui, dont vous connaissez les producteurs. Mais voilà, il y a ce qu'on appelle l'exception Marco Polo dans ce monde locavore.
Exactement. Les épices.
Les épices, voilà, vous n'avez pas envie de vous passer des épices. Le chocolat.
Le cacao, en tout cas, j'utilise peu, mais je travaille. Et effectivement, là, c'est la même chose. Ouais.
Alors moi, je trouve ça très louable, évidemment, et qu'il faut aujourd'hui avoir une certaine conscience de ce qu'on achète, de ce qu'on met dans son assiette, et pourquoi aller chercher à l'autre bout du monde des produits qu'on a parfois au pied de chez soi. À côté de ça, il y a un truc, c'est que moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'histoire de la cuisine, elle est faite d'échanges, elle est faite de produits qu'on est allé chercher à l'autre bout du monde, et que si on était... Rester locavore, ben c'est la cuisine du Moyen-Âge, en quelque sorte.
Et puis Olivier, il y a aussi la réalité des grandes villes. Voilà, je suis à Paris maintenant depuis 30 ans, même si je suis amoureux de ma région du Béarn et de toutes les régions de France, qu'est-ce que je pourrais faire à Paris, quoi. Donc je suis quand même obligé, en faisant attention où j'achète, à qui j'achète, voilà, que ce soit des produits qui soient respectueux de l'environnement, respectueux de l'animal et respectueux aussi, vertueux par rapport au prix. Voilà, donc je suis quand même obligé de m'appuyer ça pour pouvoir exister. C'est pour ça que c'est à la limite du locavore. On ne peut pas l'appliquer partout. Alors, si je travaille en Béarn, si je suis au pied des Pyrénées, si je vais acheter mon agneau, si je prends un agneau de Mont-Saint-Michel, c'est totalement ridicule, étant donné que j'ai un agneau des Pyrénées qui est à côté de chez moi, et c'est là que le locavore a son importance. Mais ne bloquons pas ça non plus, parce que ça nous permettrait peut-être aussi d'avoir beaucoup moins de jouissance et beaucoup moins de plaisir, autant nous à la transformation, que le client a dégusté.
Paris, c'est la vitrine de la France, donc le local, c'est la France. Quoi.
Bah, exactement, mais le locavorisme, en tout cas, moi, je ne mets pas d'étiquette sur ces influences culinaires, si on peut dire ça comme ça. Mais si je viens à Paris, ou d'ailleurs quand je suis dans d'autres grandes villes dans le monde, je m'inspire effectivement de ce qu'on fait dans ce pays-là. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mêler les différentes choses. Autour de Paris, on a des fermes agricoles qui fonctionnent très bien, mais qui ne vont pas avoir tous les produits ou qui vont avoir... Voilà. Donc moi, je m'inspire de tout ça. Effectivement, pour manger Paris, je pense que c'est comme le dit Yves très, très bien. On a des provenances magnifiques et Paris, c'est le marché de la France.
Mais oui, et manger local, c'est déjà manger français peut-être en premier lieu. Alors ne bougez pas, hein. On continue d'explorer les intérêts et les limites du locavorisme. On va goûter votre pain local juste après ça. Un joli pain, vous allez voir, vous pourrez le refaire à la maison ce week-end.
La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Alors, avec cette satanée pandémie, nous avons appris à consommer plus local, à manger en regardant ce qui pousse autour de nous. Nous avons redécouvert aussi les petits commerces de proximité, et ça, c'est tant mieux. Et un an plus tard, alors on se pose la question, sommes-nous tous devenus locavores? Nous sommes avec Nadia Samut, la chef de l'Auberge et la Fenière à Lourmarin, dans le Luberon. Lourmarin-Cadenet d'ailleurs. Hein,
Entre deux,
voilà. C'est Cadenet, route de Lourmarin, ou Lourmarin, route de Cadenet, comme vous voulez. Nadia, est-ce que la crise sanitaire a renforcé votre envie de local?
Oui, en tout cas, elle a renforcé, pas forcément l'envie, mais l'accompagnement du local. Ouais. J'ai même fait des marchés avec les agriculteurs avec lesquels je travaille, dans leur hangar, et puis on vendait tous les week-ends les produits ensemble. Donc oui, oui.
Alors, vous parlez de l'importance, hein, pour vous, qui est de maintenir une filière avec les agriculteurs, les maraîchers, les meuniers, les boulangers. Non, parce que c'est vous qui faites le pain et vous êtes venu avec des pains. Alors, c'est vrai qu'on le redit, hein, vous cuisinez sans gluten et il est incroyable, votre pain à la châtaigne que vous avez apporté avec un beau moelleux, une belle humidité. Ça vient d'où? Alors, c'est de la châtaigne locale, ça, par exemple?
Alors là, en fait, déjà, on est sur des farines que j'écrase dans mon moulin. Ouais. Donc dans le sud, qui est à Cavaillon. Ensuite, effectivement, je vais avoir du pois chiche qui vient du lycée agricole de l'Île-sur-la-Sorgue et Avignon. C'est un projet agricole qu'on a monté. Le riz vient de Camargue. Le sarrasin ne vient pas de la région, par contre, il vient de Gascogne encore. Et puis, on va avoir de la châtaigne qui vient de Colobrières et des Cévennes.
D'accord, donc ça ne vient pas de loin, effectivement. Ce qu'il faut se dire aussi avec cette alimentation locale, c'est que ça permet de lutter contre une alimentation transformée qui, elle, on l'a bien vu, ne nous veut pas du bien. Hein.
Exactement, mais je pense qu'en plus, on peut réapprendre à cuisiner ce qui nous inspire autour de nous. Donc la localité nous permet aussi de recuisiner quand même pas mal de choses.
Pour les viandes, comment vous faites alors?
Alors, je travaille avec effectivement des élevages pas très loin. Je travaille le cochon Mangalica qui est élevé à Opède dans le Luberon. C'est un cochon laineux. De race hongroise.
Soyeux.
Voilà, c'est un mouchon, un mouton-cochon. Et puis...
C'est très beau en plus, hein. C'est un très bel animal.
Ouais, c'est beau. Je travaille également le pigeon, un petit peu. L'agneau, bien sûr, de la croix. Et puis, je vais travailler quelquefois le taureau de Camargue.
Ah, et le riz de Camargue aussi, vous le travaillez?
Exactement, oui.
Ce beau riz rouge là que j'aime, qu'on cuisine un petit peu al dente.
Alors, il y a un produit qui n'est pas toujours facile d'avoir en locavore, c'est le vin. Alors, là où vous êtes, évidemment, vous êtes au pied du Luberon, c'est pas un problème, vous pouvez vous approvisionner, il y a les Côtes-du-Rhône qui sont pas loin. Mais bon, ici à Paris, il faut quand même faire quelques kilomètres pour trouver du vin. Et j'imagine que vous ne vous interdisez pas sur votre carte des vins d'avoir des vins d'Alsace, des vins de Bordeaux ou d'ailleurs qui viennent d'un peu plus loin.
Pas. Non, non, mais déjà, je ne m'interdis rien du tout. Moi, je suis complètement ouverte à la réflexion. Mais par contre, j'essaye effectivement de m'inspirer de ce que j'ai autour de moi. Je le fais, par exemple, dans ma fabrique commensale de meunerie, boulangerie, pâtisserie. Pourquoi ? Parce que je disais que pour même créer un biscuit provençal, j'ai envie de trouver autour de chez moi tout ce que je vais pouvoir faire pour le transformer. L'amande vient peu de Provence, en fait, aujourd'hui. Mmh. Et moi, j'ai décidé d'accompagner la filière amande, par exemple.
Ouais, c'est ça
c'est ces réflexions qui m'intéressent.
C'est votre regard, effectivement, sur les gens autour de vous et de créer, justement, des passerelles comme ça. Et puis, quand on ne peut pas trouver local, eh bien, on prend ailleurs. Mais c'est vrai que le locavorisme, il a des travers aussi. Marc Dufumier, qui est un agronome qu'on a reçu ici, il l'avait évoqué parce qu'il disait « Aller en voiture du producteur d'asperges au vendeur d'œufs, en passant par le paysan pour les yaourts et puis le boulanger, et puis je repasserai un petit peu chercher autre chose. Bonjour le bilan carbone, quoi. » Donc non, mais c'est vrai qu'il est vertueux le locavorisme normalement au départ, mais faut aussi qu'on aille peut-être vers des magasins paysans, des magasins producteurs et reconcentrer les forces vives.
Ah ben nous, on en a un génial qui vient d'ouvrir à Cadenet, juste à côté de chez moi, qui s'appelle la Bardane et qui permet justement de rassembler tous les agriculteurs, les paysans qui sont autour de Cadenet et qui ont décidé de faire ce marché de manière permanente dans un lieu comme ça. Et maintenant, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir effectivement aller faire ses courses là-bas avec une vingtaine, voire un peu plus de paysans qui se sont regroupés.
Et pour avoir un chiffre, quand vous faites un kilomètre de voiture, pour le rentabiliser d'un point de vue carbone, il faut acheter au moins 2,5 kilos de légumes.
Ah oui.
Donc si vous allez chercher à 10 km de chez vous, il faut bien remplir le coffre.
Faut prendre plus qu'une botte d'asperges. Ouais. Vous faites un menu à emporter, un brunch à emporter ce week-end à la Fenière. C'est quoi le menu? Alors on va manger quoi aujourd'hui?
Il y a
demain
plein de choses. C'est vraiment une boîte à surprise. Alors dedans, on va avoir une petite salade de fenouil avec un petit peu de citron, d'agrumes comme ça, juste râpé, un peu de poutargue.
De martigues.
Oui, exactement. Il y aura une petite salade aussi de brocoli, amandes torréfiées. Vous aurez également, qu'est-ce que je vais vous dire, un petit velouté de chou-fleur. Et puis là, tout de suite, je n'ai pas tout en tête. Mais il y a tellement de choses dans ma boîte de surprise que je... toutes les semaines,
ce que je voudrais juste te dire, c'est que ces pains sont vraiment très bons. Ce n'est pas des gadgets. Moi, les pains sans gluten, j'ai toujours tendance à penser que c'est des gadgets et que c'est vraiment en... Voilà. Et bien, pas du tout. Là, il y a du goût, il y a de la texture et les graissins sont incroyables.
Ouais, parce que souvent, le sans gluten, on a l'impression d'avoir pratiquement une texture de flan. On est clair, on a quand même les yeux fermés.
On se dit pain.
Il y a de la mâche.
Il y a de la mâche et surtout, il y a une longueur de palais. On a le palais qui est tapissé de rondeur, de plaisir.
Eh bien, merci Nadia Samut d'être venue nous voir. Bonjour à Rennes et Guy Samut, vos parents, votre papa Guy, justement, parlait du locavorisme qui va justement pour vous avec sa voiture à 7 au marché de poissons, chercher les beaux poissons que vous allez cuisiner. Qu'est-ce qu'il y a comme poisson, tiens, pour nous mettre en bouche encore les poissons du moment?
Un peu de mulet, là, moi j'adore ça, donc je travaille beaucoup le mulet.
Cru, c'est bon, en carpaccio aussi.
Oui, et puis même en gravlax, c'est juste délicieux.
Merci Nadia Samut. Et on retrouve votre livre « Construire un monde au goût meilleur » chez Actes Sud. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec une citoyenne du monde, justement, une distributrice de bonheur. L'auteur et cuisinière Perla Servan-Schreiber se met à table. Dans un instant, bon week-end et bonne cuisine, si vous êtes en train de la faire.
Europe 1.